Et donc pour ouvrir officiellement cette matinée, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur François Jacques, président directeur général du CNES, qui intervient pour la première fois aux assises du New Space. Homme engagé au service de l'État, au service de la science et de l'innovation, nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur François Jacques, pour cette première édition.
Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers collègues, alors dire que je vais ouvrir la séance est peut-être un peu présomptueux. Je vais être le premier intervenant de la matinée, on va dire ça comme ça, car je ne suis pas ministre et je n'aspire pas à le devenir, donc de toute façon, je ne vais pas me mettre dans ce rôle-là. Bon, déjà beaucoup de choses ont été dites. J'ai un peu hésité sur ce que j'allais raconter, c'est-à-dire est-ce que j'allais vous faire une intervention sur l'espace dans toute sa généralité qui ne vous aurait peut-être probablement pas appris grand-chose parce que vous êtes tous autant, si ce n'est plus, qualifiés que moi. Et puis je me suis dit que d'un autre côté, je pouvais aussi faire une forme de plaquette publicitaire du CNES, ce qui n'est jamais inutile. Et finalement, j'ai opté pour un mixte entre les deux, c'est-à-dire commencer peut-être par quelques éléments qui ont déjà été rappelés sur le moment dans lequel on vit et peut-être dire quel est l'apport éventuel ou certain de l'Agence spatiale française dans ce moment. Alors, le moment que l'on vit, je vais vous épargner tout ce qui a déjà été très bien dit sur l'importance de l'espace dans notre vie quotidienne, l'importance de l'espace pour la souveraineté, mais peut-être me focaliser plutôt sur le fait qu'on est aujourd'hui confronté à un univers que je qualifierais d'incertitude. C'est-à-dire qu'on a une incertitude sur l'environnement international, une incertitude géopolitique. Elle n'est pas qu'américaine, hein, elle va bien au-delà. On a aussi, j'allais dire, un moment d'incertitude par rapport à ce qui va se passer en Europe, ça a été mentionné, les perspectives financières, les MFF, les perspectives financières viendront au courant de l'été et seront des éléments structurants pour la période 2028-2034. On a aussi une incertitude sur la ministérielle de fin d'année, ceci montre bien comment tout ce que nous faisons est enchevêtré et compliqué. Mais je crois qu'il faut aussi avoir conscience de ce qui se passe dans le domaine de la dualité, où cet objet bien connu de longue date prend aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, avec la guerre sur le sol national, sur le sol ukrainien, clairement une nouvelle dimension. Et puis, nous avons, ça a été aussi mentionné, une stratégie spatiale française en cours d'élaboration qui devrait trouver son aboutissement à l'automne, mais qui n'est pas in abstracto et en isola. Elle doit évidemment s'articuler avec les consultations qu'on peut avoir avec nos partenaires européens. Et puis, comme il faut bien regarder les choses en face, on a aussi une situation financière et budgétaire du pays qui est préoccupante. Moi, je le dis d'autant plus, avec d'autant plus de sérieux, que dans la préparation de ce que seront les années 26 et au-delà pour un organisme comme le CNES, c'est effectivement un moment important où, justement, on va prendre un certain nombre de bifurcations dans un contexte qui est tendu et qui est compliqué. Bon, voilà, je voulais juste rappeler ça parce qu'on a toujours, on dit toujours le moment est important, comme si le moment de nos prédécesseurs ne l'était pas et le moment de nos successeurs ne le sera pas non plus. Mais je crois que, pour une fois, au-delà de la clause de style, on a une période qui s'ouvre entre maintenant et dans 6 à 12 mois où il va y avoir quand même un certain nombre de curseurs qui vont se mettre en place et qui vont déterminer sur la période ultérieure. Donc, je pense que c'est important de le mesurer. Alors, face à cet environnement, face à ces incertitudes, face à ces risques, je crois qu'il faut avoir le courage de poser pas à pas les difficultés, de voir comment on pourra faire des choix, de voir comment on aura effectivement soit des renonciations à consentir, soit des investissements supplémentaires à faire, soit tout simplement des risques à prendre. Et je crois que pour éclairer ces risques, on doit avoir certainement une double approche, c'est-à-dire d'une part, ne pas perdre de vue les fondamentaux, ne pas perdre de vue ce qui fait notre force, donc les conforter, mais aussi anticiper, pardon de rappeler des évidences, mais Ça passe par des fonctions de veille et de prospective, c'est-à-dire qu'il faut être aux aguets de ce qui se passe à l'extérieur, il faut être capable de réagir par rapport à ça. Il faut que nous ayons collectivement, et j'insiste sur le collectivement, une capacité à élaborer des feuilles de route avec des attendus, des hypothèses, des buts poursuivis aussi clairs que possible. Alors ça ne veut pas dire que ces feuilles de route, elles se réaliseront. La plupart du temps, elles sont quasiment faites pour ne pas se réaliser parce que la vie évolue et parce que les choses bougent. Mais en tout cas, elles sont un outil indispensable pour travailler ensemble. Et puis, je crois qu'on parle toujours de ces mots-là, mais il y a une forme de souplesse, il y a une forme de capacité d'adaptation et à collaborer entre les différents acteurs qui est important. Du coup, je voudrais aussi ajouter un petit message qui est un message dont je suis convaincu, qui finalement me vient aussi de mes expériences antérieures dans le domaine de l'énergie à la tête d'un autre grand organisme. C'est qu'à un moment... nous allons aller vers quelque chose qui ne sera plus la dichotomie entre le old et le new. D'une certaine façon, on est toujours le new de quelqu'un ou le old d'un autre, et c'est ça la beauté du passage des générations. Donc, je pense que la dichotomie, elle va devenir de plus en plus réductrice à mesure de tout ce que vous avez créé, et dont moi je suis finalement honoré qu'on me demande d'intervenir aujourd'hui devant cette assistance. Mais ça veut dire que ce que nous avons à faire, c'est inventer ou réinventer en permanence un environnement qui, en fonction des contraintes externes que nous avons, en fonction de ce qu'apportent les nouveaux acteurs, en fonction de l'évolution des technologies, de l'évolution de la science, doit être capable de forger le neuf et puis de bénéficier de cet appel d'air qui a été celui du New Space et qui sera celui d'un écosystème du spatial renouvelé demain. Je pense que par rapport à cela, l'histoire n'est pas écrite. Enfin, tous ceux qui savent exactement ce qui va se passer dans les 5 ans, moi, on m'interroge souvent en disant « Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ?» Je pense que ça serait quand même un manque de lucidité et de modestie que de dire qu'on le sait. Tout au plus, peut-on esquisser des voies. Et cette voie future, cette voie qui n'est pas encore écrite, elle n'est pas non plus, me semble-t-il, dans l'imitation. C'est-à-dire que nous ne nous sauverons pas ou nous ne réussirons pas nécessairement par la reproduction de modèles, en particulier de modèles américains, à l'identique, parce que de toute façon, ce ne sont pas les mêmes conditions aux limites. Donc forcément, nous n'arriverons pas au même résultat. En revanche, il faut savoir en tirer les leçons. Voilà, ça c'était la partie un peu générale du propos. Et je voulais maintenant dire quelques mots sur, mais finalement, le CNES dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire, à quoi il sert et sous quelles conditions, en quelque sorte. Alors, évidemment, quand je vais dire que le CNES sert à quelque chose, que le CNES est important, vous allez dire qu'il est payé pour ça, donc qu'est-ce qu'il pourrait bien dire d'autre? Donc je vais peut-être faire un pas de côté, 30 secondes, en regardant l'environnement international. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est parlant. C'est-à-dire que si vous regardez tous les pays qui ont une politique spatiale, alors plus ou moins stable, plus ou moins cohérente, plus ou moins parfaite, mais tous les pays qui ont une politique spatiale, disons... les États-Unis, disons l'Inde, disons le Japon, disons la Chine, disons la Russie, même pour parler de gens avec qui on n'a plus de relations depuis un certain temps, ce sont des pays qui ont une agence spatiale nationale forte. Et donc je crois que c'est un peu la preuve à contrario du fait qu'il y a un besoin d'agence. Et en tout cas, moi, j'en suis absolument convaincu. Et c'est pour ça que j'ai été heureux, finalement, de rejoindre le CNES pour essayer de mettre mon expérience antérieure au service de cette maison. Alors, qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette agence, et sous quelles conditions? D'abord, je crois que ce qu'elle peut apporter, c'est une vision, ou ce qu'elle doit apporter, parce qu'elle ne le fait peut-être pas toujours bien, et on a toujours des capacités à progresser, mais en tout cas, c'est une vision systémique du secteur. Quand je dis une vision systémique du secteur, c'est une vision qui permet de monter des projets, qui permet de les intégrer dans un environnement international, qui permet de jouer un rôle d'architecte système, qui permet de mettre en rapport un certain nombre d'acteurs. Et de ce point de vue, je crois que ça passe aussi par une dimension européenne. Et vous allez voir, à chaque fois, je prends un peu cette précaution-là, une dimension européenne qui est majeure, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais où il faut que chacun joue son rôle, c'est-à-dire ce n'est pas le CNES seul qui va réformer la géopolitique de l'Europe, ni qui va refonder toutes les institutions. Il peut être un levier, il peut être un ingrédient, mais en tout cas, je pense que cette vision systémique, cette capacité à embrasser l'ensemble du secteur, est un des apports que doit et que peut avoir une agence comme la nôtre. Et si on ne l'a pas assez, ben, il faut nous stimuler pour qu'on l'apporte encore un peu plus pour aider à forger cette vision de demain. La deuxième chose que doit apporter l'agence, et je pense qu'elle l'apporte, là pour le coup sans aucune espèce d'hésitation, c'est un socle de compétences et d'expertise. Alors ça passe, et je tiens à le dire, par une pratique de terrain. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu un équilibre à trouver entre le faire et le faire faire, mais disposer, et ça, croyez-en, un patron d'organisme de recherche depuis un certain nombre d'années, disposer d'une expertise, disposer d'une compétence, l'expertise, elle ne se décrète pas, elle se prouve, elle s'acquiert, elle se prouve et elle se renouvelle dans la pratique et dans le concret. Et donc, on a besoin de trouver ce juste équilibre dans ce que nous devons faire pour assurer la maîtrise des compétences en partage avec les différents acteurs. Ça suppose d'être... Et ça, c'est une exigence et ce n'est pas un donné, parce que c'est quelque chose qui doit en permanence s'éprouver et se mesurer. Ça suppose d'être au front avancé des évolutions. Ça suppose, en suscitant la recherche, en suscitant la technologie, en suscitant les idées de demain, d'être capable d'apporter les briques technologiques, d'apporter le renouvellement dans le secteur. Et je pense que ceci doit se faire en plus avec une vision large. Je parlais de vision systémique tout à l'heure. Quand je dis une vision large, c'est-à-dire que notre rôle, c'est aussi de comprendre les interfaces entre les différents aspects, de ne pas segmenter, de ne pas siloter, c'est-à-dire ça va du sol au lancement en passant par les systèmes et la donnée et son exploitation. Et donc, c'est bien cette continuité-là qu'on doit aussi aborder. La troisième chose, je pense, qui est un peu liée à la situation française, mais qui doit être réinventée, c'est la dualité. C'est-à-dire qu'on a un héritage de dualité, on a un héritage de travail entre le militaire et le civil, qui est un peu par construction dans le CNES. Mais je crois que le moment que nous vivons, les mutations technologiques que nous connaissons, tout ce que vous avez pu apporter les uns et les autres, montrent que ça, c'est quelque chose qui a à être réinventé d'une certaine façon, et dans notre capacité à travailler en interne de l'État, et dans notre capacité à travailler avec vous, je crois que c'est extrêmement important. La quatrième chose que je voulais mentionner, c'est tout ce qui concerne la transversalité. Ça, c'est un point absolument majeur. Je le disais en termes de vision du système, mais nous avons à faire ce travail-là en tant qu'agence et nous avons à le faire chez nous déjà, c'est-à-dire comment on fait travailler de la meilleure manière possible entre les différents secteurs de la maison. Et ça sera important. Pourquoi ? Parce que c'est là, c'est au frottement entre les différents domaines que naîtront les choses nouvelles, que naîtront les questions, que naîtront les approches de demain. Moi, j'ai pu l'éprouver de manière forte dans une grosse maison de 20 000 personnes où faire travailler ensemble les gens de la santé et du numérique, faire travailler ensemble les gens de l'énergie et du numérique, etc., etc. Ça a été un long et pénible travail parce que ça ne vient pas spontanément, mais c'est bien comme ça qu'on avance. Et en même temps, ça prêche par l'exemple pour l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, on s'applique à nous-mêmes une espèce d'hygiène intellectuelle qui, je crois, est essentielle pour avancer ensemble. Il faut, et alors là, pardon de ce plaidoyer, maintenir dans la durée et dans la continuité le support à la science. J'insiste, le support à la science. C'est parfois la première chose qu'on veut sacrifier. Moi, j'estime que le support à la science, c'est déjà une cause en soi. Et quand on voit ce qui se passe dans l'univers autour de nous, je pense que c'est une cause importante à laquelle on a intérêt à être sensible. Mais c'est aussi un lieu de réinvention. C'est aussi, évidemment, mais vous connaissez toutes ces évidences, une pépinière d'idées, de technologies et de capacité à aller à la pointe sur un certain nombre de choses que l'on pourra, en quelque sorte, démocratiser ensuite au service du plus grand nombre. Et puis enfin, j'ai presque terminé, il y a besoin, pour une agence comme la nôtre, d'une palette d'outils à la fois maîtrisée et diversifiée. Parce qu'on entend souvent, et ce n'est pas faux, que nous faisons beaucoup de choses et que nous nous dispersons peut-être. Bon, moi, je pense que nous avons diverses modalités d'action. Ça peut être des modalités d'action par la commande, ça peut être des modalités d'action par le montage de projets, ça peut être par l'encouragement d'acteurs, ça peut être par la création d'écosystèmes. La question qui se pose derrière, c'est vraiment comment on garde une visibilité de cette stratégie, comment on garde une maîtrise de ça, de manière à bien voir les grands équilibres, à ne pas justement se disperser et à être capable d'être à la fois dans le risque, mais pas dans le risque tout le temps, mais aussi dans l'équilibre entre la préservation, je le disais au début, des fondamentaux et la capacité à ouvrir des nouveaux champs. C'est d'autant plus important dans un univers où on voit bien que les tensions financières sont présentes au premier chef, mais aussi toutes les transformations et toutes les sollicitations géopolitiques. Donc ça, je pense que c'est ce qui est devant nous. Ça suppose beaucoup d'exigences sur nous, et je pense que toutes les équipes du CNES s'appliquent ça et ont bien conscience de ça, et que ce qui a été décidé récemment, alors pour un certain nombre d'organismes, dont le CNES, dans le cadre du CNES, c'est un peu particulier, puisque ça existait déjà largement, c'est-à-dire de plus mettre en lumière ce rôle d'agence de programme qui a vocation à réunir tous les partenaires autour de soi, à organiser le débat, à créer la confiance et d'une certaine façon à bâtir des choses ensemble, je crois que c'est vraiment au cœur de ce qui est devant nous. Voilà. Donc, vous le voyez, on a une situation qui est, ne nous voilons pas la face, un peu difficile, un peu compliquée, en même temps avec énormément de potentiel qui a été créé au cours des années écoulées. Et donc, la question, c'est de savoir comment ce potentiel, on l'exploite. Et vous le disiez très bien en introduction, on a pris des risques, donc il y a des choses qui ne marcheront pas, il y a des choses qui marcheront, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'accepte, mais en même temps qu'on sache tirer tout le parti de ce qui a pu être réalisé, parce qu'il n'y aurait rien de plus terrible que les énergies qui ont été créées si elles n'étaient pas exploitées à la fin des fins. Donc, l'année sera clé. Je pense que, je le redis, je pense que ce n'est pas qu'une clause de style. L'ambition française, elle est réelle. Elle est attestée aussi par l'émergence de l'écosystème qui nous réunit aujourd'hui. Et, en tout cas, soyez convaincus que le CNES est prêt à y jouer tout son rôle et à essayer de bâtir, d'éclairer et de construire avec les uns et les autres dans le cadre des principes que je rappelais précédemment. Ça fait beaucoup de chantiers, beaucoup de travail devant nous, mais je crois que c'est assez stimulant de penser qu'on a des défis aussi majeurs à relever. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup.